VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Une femme kamikaze s'est fait exploser ce matin dans la ville de Moura, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où des djihadistes nigériens de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Une seconde a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge. Selon des sources militaires, le jeudi est traditionnellement un jour de marché à Moura, ville stratégique dans le dispositif de lutte contre Boko Haram. Cette ville abrite notamment le quartier général du premier secteur de la force multinationale mixte, une coalition régionale créée par le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, auquel s'est ajouté le Bénin pour combattre les extrémistes. Le 21 août, trois civils avaient été déjà tués à Moura dans un attentat suicide. Amnesty International accuse les forces de sécurité nigériennes d'avoir réprimé dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, entraînant la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour Samira Daoud, la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'usage de la force était disproportionné.
Et clairement, une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Sami Daoud d'Amnesty International. Le gouvernement rwandais a jugé inadéquates les excuses présentées par l'Église catholique rwandaise pour le rôle de certains de ses membres lors du génocide rwandais de 1994 qui avait fait environ 800 000 morts, affirmant que le Vatican lui-même devrait demander pardon pour ses crimes. Dimanche, une lettre d'excuses signée par les évêques des 9 diocèses du Rwanda avait été lue dans les églises du pays à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. En Afrique, moins d'un tiers de la population a accès à Internet. On constate cependant un véritable boom des réseaux sociaux, en particulier auprès de la jeunesse qui utilise Facebook et WhatsApp comme mode d'expression privilégié. Pauline Bend, représentante de la Fondation Hirondelle au Niger, explique cette explosion.
Quand on prend l'Internet classique, le mode de connexion, c'était souvent, bon, il faut un ordinateur, il faut savoir se servir d'un ordinateur pour accéder à l'Internet, il faut prendre un abonnement, etc. Aujourd'hui, vous avez trois choses. Il y a les smartphones qui sont de plus en plus répandus. Vous rendez sur les marchés, chez les artisans, vous allez supprimer le nombre de personnes qui se baladent dans la rue avec des téléphones nouvelle génération qui peuvent leur permettre d'aller sur Internet. Vous avez aussi, je pense, qu'il y a une sorte d'offensive des opérateurs de téléphonie mobiles qui ont proposé des packages à des prix très très bas pour permettre aux gens d'aller justement sur des réseaux sociaux. Il existe des offres spéciales Facebook ou spéciales WhatsApp avec un très faible prix, hein, pour 100 francs vous avez un accès. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile aux gens d'accéder à l'Internet à partir de ces terminaux téléphones mobiles.
La représentante de la Fondation Hirondelle au Niger. Quelques 300 étudiants et lycéens au Soudan ont protesté aujourd'hui à Khartoum contre la décision du gouvernement soudanais d'augmenter les prix de l'essence du diesel. Des dizaines de membres de la police anti-émeute et des agents de la sécurité les ont dispersés après avoir bouclé le quartier où les jeunes s'étaient rassemblés. Le Soudan a annoncé début novembre avoir augmenté les prix de l'essence et du diesel à la pompe d'environ 30% en raison d'une pénurie chronique de carburant causée par un manque de devises étrangères. Cela s'est traduit par une hausse des prix des autres produits dont les médicaments et provoqué des réactions hostiles de la population.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nommant hier au poste d'ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, à l'éducation. M. Trump pourrait aussi annoncer la nomination de son ancien rival de la primaire républicaine, Ben Carson, un noir au poste de ministre du Logement. Le point, Anne Alberson.
En nommant Nikki Haley, 44 ans, gouverneure républicaine de Caroline du Sud, M. Trump semble vouloir élargir sa base. Mme Haley l'avait critiqué avec virulence lors des primaires et pris position pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio. Aux États-Unis, l'ambassadeur à l'ONU, poste occupé depuis 2013 par Samantha Power, et membre de l'administration, est donc l'un des principaux collaborateurs du président. Madame Haley, dont la nomination devra être approuvée par le Sénat, sera chargée à l'ONU de suivre notamment les crises en Syrie et en Ukraine, des dossiers sur lesquels Donald Trump a affirmé vouloir davantage de coopération avec la Russie. Donald Trump a aussi nommé la femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, comme ministre de l'Éducation. La nomination de Ben Carson au logement devrait être annoncée prochainement, a lui-même indiqué le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. Donald Trump, en ce moment en Floride pour la fête de Thanksgiving, va profiter de ce long week-end pour peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir trois postes clés. Le chef de la diplomatie, le secrétaire à la défense et le secrétaire au trésor. Selon les médias américains, Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et féroce contempteur de Donald Trump, reste en course pour se voir confier les affaires étrangères.
Ici aux États-Unis, toujours, les Américains célèbrent aujourd'hui la Thanksgiving, la journée d'action de grâce, un jour férié et chômé dans le pays, l'occasion de se retrouver en famille et entre amis pour partager la dinde traditionnelle. Dans la région de Washington, des volontaires et membres de certaines communautés vont se mettre avec des réfugiés arrivés récemment dans le pays pour un dîner spécial. Elisabeth Chaneuf pour le reportage, récit Lionel Gaïma.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kiddies Testify est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa, je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner, seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
Embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Teshai Tefera, président et fondateur de l'ONG, Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
L'armée turque a mis en cause les forces du président syrien Bachar al-Assad dans la mort de trois soldats turcs tués aujourd'hui par un bombardement dans le nord de la Syrie. C'est la première fois qu'Ankara met en cause le régime syrien dans la mort de soldats turcs depuis le début d'une offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie le 24 août dernier pour repousser les djihadistes de l'organisation État islamique et les milices kurdes vers le sud. Le gouvernement turc soutient activement l'opposition syrienne qui tente de renverser le président Assad, que le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan qualifie régulièrement de monstre aux mains recouvertes de sang. Et puis la Colombie signe ce jeudi avec la guérilla des FARC un accord de paix mettant fin à plus de 50 ans de conflit armé. Pour inclure des propositions de l'opposition suite au rejet d'une première mouture par le référendum, vous vous en souvenez. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Merci et à bientôt.